Et nous voici à nouveau sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition de l'actualité internationale vue par Comaguerre, avec toute son équipe, donc Roselyne que je salue dans la cabine technique, et Habib à mes côtés, que je salue.
Bonjour.
On va commencer par une nouvelle de politique étrangère mineure, mais justement ça fait juste une introduction, pour vous montrer à quoi peut servir la Cour internationale de justice et les limites de son intervention. Alors il y a les limites de forme, puisqu'on sait que les avis de la Cour internationale de justice ne sont pas suivis par l'ONU, elle ne peut pas imposer, la Cour ne peut pas imposer à ce que les avis soient exécutés. Mais là il s'agit d'un avis qu'elle avait fourni il y a déjà plusieurs années sur la question de l'archipel des Chagos. Alors qu'est-ce que c'est que l'archipel des Chagos? Alors vous regardez quelque part au milieu de l'océan Indien, entre les Seychelles, assez près des Seychelles et un peu plus loin des Maldives, enfin peu importe, il y a un archipel qui existe toujours, l'archipel des Chagos. Cet archipel faisait partie de l'Empire britannique et au moment où l'île de Maurice a obtenu son indépendance de sa majesté britannique, l'archipel est devenu un territoire de l'île Maurice, encore que ça en soit assez loin, je crois que c'est un bon millier de kilomètres, mais enfin, il n'y a pas grand monde autour dans ces coins-là. Et donc l'archipel des Chagos est un archipel mauricien, pour faire simple. Bon. Tout ça, c'est très bien, mais vu qu'il n'y a pas grand monde dans l'archipel, et que c'est un endroit extraordinairement calme. Vous avez bien dit, il n'y a pas beaucoup de monde autour, on ne peut pas faire beaucoup de bruit. La Grande-Bretagne et son ami, ou j'allais dire plus que ça, son maître, les États-Unis, ont dit « Ah, mais là, voilà un bel emplacement pour mettre un relais pour toutes nos communications militaires et ajouter aussi un aéroport pour les bombardiers, un petit local pour les sous-marins atomiques, etc. » Et ils sont tombés sur le principal atoll de cet archipel des Chagos, qui s'appelle l'atoll de Diego Garcia. Retenez ce nom parce que on connaît plus le nom de Diego Garcia que l'archipel. Diego Garcia était d'ailleurs, à l'époque, la seule île, le seul île de l'archipel des Chagos qui était habitée. Mais il se trouve que les États-Unis viennent voir leurs amis britanniques, ils disent « Voilà, c'est un endroit extraordinaire, on sera tranquille, on a l'œil directement sur l'Inde, on voit passer tout ce qui passe dans le commerce entre l'Asie et l'Europe, on n'est pas très très loin de nos amis les Australiens et les Néo-Zélandais, voilà un endroit de rêve pour les télécommunications de l'Empire. » Et la Grande-Bretagne, oui, excellente idée. Tellement excellente idée qu'on va aller voir les habitants de Diego Garcia, on va dire, vous pouvez partir. Ah bon, disent-ils. Oui, on ne vous veut pas. On ne vous veut pas parce que tant pis pour vous. Alors, vous pouvez aller à Maurice, vous pouvez aller en Grande-Bretagne puisque vous êtes d'anciens citoyens de la Grande-Bretagne. C'était quelques milliers de personnes. L'atoll n'est pas gigantesque. En fait, il y a quand même de quoi mettre une piste assez longue de 3 km pour faire atterrir les B-52 américains. Hein, qui d'ailleurs à l'occasion s'en sont servis pour aller bombarder l'Irak. Donc vous voyez que ça, c'était quand même bien placé. Mais ça c'était secondaire, disons, c'était un petit coup de pouce, mais l'essentiel c'était les communications par tous les moyens possibles de télécommunication à l'intérieur de l'Empire. Donc vous voyez, à mi-chemin, Australie-Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, États-Unis, voilà. Un œil sur la totalité de l'espace de l'océan Indien. Il se trouve que les habitants de Diego Garcia sont mis à la porte. Certains s'installent à Maurice, d'autres s'installent en Grande-Bretagne. Et puis ils se disent, mais on nous a mis à la porte, mais on était chez nous. Bon réflexe, j'allais dire. Et ils vont voir des avocats, ils font des dossiers et tout. Et ils finissent par être entendus en disant, mais ces gens-là, il n'y avait aucune raison de les mettre dehors. Alors embarras, côté un peu d'embarras à Londres, à Washington, on s'en inquiète pas beaucoup. Et ça a débouché, alors c'est là que c'est intéressant, parce que finalement, à part les procès individuels pour indemnisation, etc., ils ont eu l'idée de consulter la Cour internationale de justice, en disant, mais cet archipel fait bien partie de l'île Maurice. L'île Maurice est indépendante, l'archipel fait partie de l'archipel du territoire de l'île Maurice. Bon. Et la Cour internationale de justice leur donne raison. Elle dit effectivement, il n'y a pas l'ombre d'un doute, l'archipel des Chagos, c'est une partie de l'île Maurice, nouvel État indépendant. Ah ! Alors ça remonte, je n'ai pas la date sous les yeux, à 2-3 ans. À partir de cette position donc, de la Cour internationale de justice, qui est très très intéressante, les Chagossiens, donc les anciens habitants de Diego Garcia et leurs avocats, disent, ah ben, puisque on est effectivement sur un territoire de l'île Maurice, bon, on va pouvoir rentrer chez nous, à Diego Garcia, puisque c'est là qu'ils habitaient et qu'ils vivaient très très heureux. Bon. Et là, alors, il se passe un travail de coulisses, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire à la fois, je me rends compte que je n'ai pas le droit pour moi, effectivement, il s'agit bien d'un archipel mauricien, mais je vais faire de la peine à Tonton de Washington. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas faire de la peine à Tonton de Washington qui tient à Diego Garcia comme à la prunelle de son armée ? Bien. Alors, il y a un arrangement. Il y a un arrangement qui a été signé. Alors là, c'est dans le dos des habitants de Diego Garcia, au terme duquel la Grande-Bretagne a signé un bail. Alors, l'île Maurice a signé un bail de 99 ans avec les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ça veut dire que, alors, la conclusion très simple, c'est qu'aujourd'hui, donc, l'archipel des Chagos est un archipel mauricien, sous souveraineté mauricienne, mais ils ont eu la faiblesse, alors je mets ça entre d'énormes guillemets, la faiblesse de laisser un bail de 99 ans à l'armée des États-Unis et à l'armée britannique. Voilà. Donc, les protestataires, les anciens habitants de Chagos seront tous morts quand ça sera réglé. Finalement, l'armée britannique, et surtout l'armée des États-Unis, a sauvé ce qui, pour elle, était un bijou stratégique. Vous voyez comment on fait ? Alors, on accepte le principe, effectivement, c'est bien le territoire mauricien, la Cour de justice l'a dit, elle a raison, on ne peut rien faire contre, parce que, effectivement, du point de vue du droit, c'est correct, mais quand même, on ne lâche rien. On ne lâche rien des pions et des petits morceaux de l'empire militaire des États-Unis, de l'OTAN, etc. Ce qui va se passer ? Ce qui va se passer probablement, alors ça c'est clair, alors une fois que ça a été négocié, ce bail de 99 ans, on a dit aux habitants, donc aux citoyens mauriciens qui habitaient dans cet archipel, vous pouvez revenir, mais pas là, parce que là c'est un bail avec les États-Unis, et donc on ne vous acceptera pas, parce que c'est une zone militaire, etc. Et on leur a dit, ben, allez sur un autre îlot. Le problème, ces îlots n'étaient pas habités avant. Alors ils vont peut-être aller sur un autre îlot, et voilà comment, j'allais dire, le droit international bien, bien travaillé par les grandes puissances amène à un peu rouler de bons citoyens qui font appel au droit dans la farine. Voilà le résultat. Donc Diego Garcia reste une base militaire de la plus haute importance pour l'OTAN et les États-Unis. Les habitants des Chagos ont été reconnus comme étant de droit citoyens mauriciens et de droit habitants et citoyens de l'archipel des Chagos. Mais ils iront peut-être mais à un endroit où ils n'ont jamais mis les pieds puisque les autres atolls n'étaient pas habités. Bon. Voilà comment on travaille, comment une grande puissance, la grande puissance, ou deux grandes puissances, arrive à jouer avec le droit tout en le reconnaissant. Alors effectivement, à Maurice, on est content, mais imaginez le gouverneur de Maurice, enfin le président de l'île Maurice, négociant avec le département d'État et le Pentagone, il ne fait pas tout à fait le poids.
Bon, pas du tout.
Et comme personne ne l'a appuyé, les Anglais ont mis au point le coup tordu que je vous décris. C'est évidemment pas les autres membres de l'OTAN, ni la France, ni quelconque, qui ont poussé des cris. Donc voilà, les pauvres habitants de Chagos sont des habitants de Chagos, mais ils vont aller dans une île déserte si le plaisir leur en vient.
C'est loin de la Chine ? Non, pas loin.
Oui, c'est très loin. Non, on est en plein milieu de l'océan Indien, droit devant le Sri Lanka, en gros. Incidente. Il y a un petit archipel au large de Madagascar qui s'appelle l'archipel des îles Éparses, ouais. Qui est exactement du point de vue de la situation internationale et du droit international, dans la même situation que l'archipel des Chagos. Et ça fait, depuis que Madagascar est indépendant, peut-être pas depuis le début, je n'ai pas la date précise, mais le gouvernement de Madagascar dit « les îles Éparses font partie de Madagascar ». Et la France ne veut rien lâcher. Alors, je souhaite, effectivement, j'espère bien que la Madagascar ira à la Cour internationale de justice et fort du précédent donc, de l'archipel des Chagos, la Cour internationale de justice dira à la France « Vous n'avez rien à faire là ». Alors là, il n'y aura pas de problème d'habitants. Alors, pas de problème. Puisque les seuls habitants d'une des îles, la principale île des îles Éparses, c'est la Légion étrangère. Donc la Légion étrangère, ben, ils sont bien gentils, bien disciplinés. Si jamais la situation évolue dans un sens de la reconnaissance de la souveraineté malgache, eh ben, la Légion étrangère ira mettre ses bottes ailleurs. Elle a l'habitude de se balader, elle est faite pour ça. Hein. Donc voilà le deuxième dossier qui va se greffer là-dessus. Et ça explique aussi le silence de la diplomatie française sur le cas de Diego Garcia, parce qu'il savait bien que ça allait déboucher sur le même dossier concernant les îles Éparses. Retenez ce nom, hein, Éparses. Alors, c'est une série de petites îles au large.
On en a parlé déjà, là.
Oui, tout à fait.
Oui, on en a déjà parlé. Et oui. Je vois aussi que les îles Éparses, il y aurait des enjeux pétroliers sur ces îles-là.
C'est ce que dit la France, évidemment. Alors, on a pas de preuves, effectivement, mais il se peut qu'en faisant des forages sous-marins, il y ait des signes positifs. Mais enfin, il n'y a aujourd'hui aucune exploitation pétrolière. Il y a au plus probablement, peut-être il y a eu des sondages, mais il n'y a rien d'effectif. On en reparlera sans doute. Voilà, ça c'était une petite chose que je voulais signaler. Puisque je reste sur la France, un mot pour parler rapidement d'une de nos colonies, la Martinique. Vous savez que la Martinique donc, est sous l'état de siège, hein,
oui.
L'état d'urgence, donc couvre-feu, interdiction de sortir dans la rue après 21h. Ça vient d'être prolongé encore d'une semaine jusqu'au 21, parce qu'il y a eu effectivement des émeutes de la faim, oui, ou de la vie chère, ça revient au même, puisque quand on a la vie est trop chère, on ne peut pas se nourrir, et donc ça devient vite des émeutes de la faim, qui ont débouché sur des protestations populaires, sur des barrages de rue, sur des incendies, des magasins occupés, etc. Et donc le gouvernement français, puisqu'on a un gouvernement, et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement ? Ben, il met à la tête du ministère de l'Intérieur un monsieur qui a de la poigne, hein, vous allez voir ce que vous allez voir, et qui dit tout de suite au préfet à Fort-de-France, allez maintenant on ferme, hein, fermeture, état d'urgence et tout, et on réprime. Et on réprime à telle ancienne qu'il y a un monsieur de 53 ans, un des animateurs du mouvement, qui s'était mis sur la piste de l'aérodrome de Port-de-France au moment pour empêcher l'arrivée d'un avion. Et donc il vient de prendre 7 mois de prison, là, pour incitation au désordre, etc. Bon, émeutier. Donc voilà, monsieur Retailleau commence à faire son tableau de chasse. Bravo monsieur Retailleau, on n'attendait pas moins de vous. Hein. Montrez qui vous êtes, mais on sait qui vous êtes en fait, démontrez-le, hélas. Autant de fois que ce sera possible, puisque monsieur Retailleau va mettre sa griffe sur une nouvelle, la 32e ou la 33e loi de contrôle de l'immigration, depuis qu'on se met à contrôler l'immigration. Donc ça remonte à la première ordonnance de 1945. On n'a jamais cessé de retoucher. Alors, c'est pas qu'on améliore le système, on le complique. D'une fois à l'autre, il se contredit lui-même. Les mesures prises dans une nouvelle loi sont mises en vigueur ou ne le sont pas et ne sont pas efficaces. Donc, c'est un sujet qui fait faire le plaisir de toutes les campagnes électorales de la droite, de l'extrême droite, de façon ininterrompue, puisque l'extrême droite, si elle se met sur ce terrain qui est son terrain favori, elle sait qu'elle va arriver encore à obtenir une petite mesure supplémentaire, un petit tour de vis en plus, etc. Après, on lui dira, et il y a même, je peux vous dire, il y a des fonctionnaires officiels dans des préfectures qui sont chargés des expulsions. J'ai des témoignages que j'ai recueillis moi-même, un fonctionnaire chargé des expulsions dans une préfecture, qui dit à des gens qui viennent défendre un dossier, il y a des gens qui s'occupent des personnes en situation irrégulière, ils disent « Mais monsieur, j'ai plus de personnel, on m'a enlevé le personnel. Moi je peux bien avoir tous les ordres d'expulsion qu'on me donne, j'ai pas les moyens de les exécuter, moi, fonctionnaire de la République. » Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la télévision, vous pouvez faire parler M. Retailleau, M. Zemmour, M. Ciotti à longueur d'antenne. Moi, simple fonctionnaire qui doit exécuter la décision d'expulsion d'un étranger, j'ai pas de salarié pour effectuer le travail. Je peux même pas signer. Bon, voilà. Donc, le ridicule et l'hypocrisie de cette situation, donc ça reste un thème électoral, et au niveau pratique, ça ne fonctionne pas. Et on va encore, à nouveau, tomber dans ce travers-là, faire les unes, faire des tables rondes, etc. Beaucoup parler à la télévision, le résultat sera ce qu'il sera, c'est-à-dire, y compris pour les gens qui sont là, qui attendent des papiers, qui vivent en moitié dans la rue, qui vivent mal, qui ne se mangent pas tous les jours, etc. Bon, voilà. Un joli gâchis, mais c'est toujours le même gâchis, parce que c'est la même approche de ce problème. On y reviendra, hélas. Maintenant, bon, je vais parler de beaucoup de choses qui se sont passées pendant les jours écoulés. Alors, je me rappelle, donc, mardi dernier, nous étions à un moment où la situation commençait à se compliquer à la fois du côté de l'Iran, du côté du Liban, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, on en était, mardi dernier, au moment où, après l'attaque très réussie, qui a fini par être acceptée comme vérité par l'armée israélienne elle-même, donc l'attaque très réussie de l'Iran sur une base militaire au sud de Tel Aviv avec des missiles hypersoniques, il y avait cette idée qui a d'ailleurs été exprimée quasiment instantanément par Netanyahou et son ministre de la Défense, nous allons riposter. Et là, oui. Pendant quelques jours, on a maintenu le monde entier en état d'inquiétude, d'incertitude. Est-ce qu'ils vont riposter et quand et comment ? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire et donc ça va se passer. Et quoi ? Bon. Et donc, on était là avec une espèce de spectre de guerre mondiale, etc., armes atomiques, etc. Bon. Puisqu'on disait qu'il n'était pas impossible, ce qui reste vrai aujourd'hui mais qui n'est pas confirmé, on n'en parle plus, ah. Il n'était pas impossible que l'Iran lui-même se soit doté de l'arme nucléaire. Ce que faisant, d'ailleurs, je le rappelle, l'Iran, qui s'était interdit à recourir à l'arme nucléaire dans le cadre des accords passés avec Obama sur les sanctions contre l'Iran, n'était plus tenu par ces accords puisque Trump les avait annulés. Donc l'Iran, en droit international, avait le droit de dire « Moi, j'avais accepté de ne pas recourir à l'armement atomique, mais dans la mesure où l'accord que j'avais signé, le partenaire qui l'a signé, donc les États-Unis d'Amérique, ne le respecte plus, l'annule, je reprends ma liberté. » C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. C'est même pas une interprétation. C'est écrit. Hein, au cas où un des deux signataires fait défaut, l'autre reprend sa liberté. Ben, l'accord n'existe plus. On le connaît, mais il n'existe plus. Bon. On en était là. On en était là et effectivement, toute une partie du système médiatique a essayé de faire monter l'inquiétude. Alors faire monter l'inquiétude, c'est toujours bien parce que quand on fait monter l'inquiétude dans les opinions publiques, l'opinion publique, elle se jette au cou du sauveur. Sauve-moi, j'ai peur de la bombe atomique. Et donc on va dire, ah Macron, fais ce que tu veux, mais sauve-nous de ça. On va dire à la première ministre italienne, c'est pareil, sauve-nous de ça. C'est, bon. Très mauvais réflexe, mais qui est connu par les pouvoirs en question, c'est-à-dire faire peur, ça permet de faire peur à l'électeur, au citoyen, qui ne veut pas mourir sous une bombe atomique, c'est le réflexe normal de tous les humains. Bon. Et puis, depuis la semaine dernière, ce bruit ou ce champignon putatif atomique s'est dissous dans les airs. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé une chose assez importante et qui n'était pas prévue au programme, ça voulait dire que c'était bien l'actualité politique la plus chaude, c'est que le président Poutine est allé rencontrer le président iranien à un endroit un peu inattendu, au Turkménistan.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faisait là au Turkménistan tous les... Ben, c'était pas du tout prévu au programme. Il y avait au Turkménistan, donc il y a un petit état donc, sur la rive est de la mer Caspienne, une rencontre sur la culture mondiale et les cultures des différents pays, etc. Donc une rencontre très intéressante en elle-même, mais oui, on parlait pas de guerre, de diplomatie et tout, on parlait de de face-à-face des cultures, de la richesse des cultures des unes et des autres, des échanges entre cultures, vous voyez. C'était plus fait à la limite pour un ministre de la culture, des écrivains, des artistes que pour des chefs d'État. Seulement, il se trouve que cette réunion était calée au samedi, et donc le fait que le président iranien et le président russe aient décidé de s'y rendre, c'était donner un lustre particulier à cette question de face-à-face des cultures et d'échanges entre les cultures, mais ça leur a permis de parler d'autre chose, et deviner de quoi ? Effectivement, de la situation et de la menace israélienne, qui était toujours là. Et à la suite de quoi ? Eh bien, le champignon s'est un peu effondré. On n'a plus parlé de champignon. On n'a plus entendu parler de champignon. C'est-à-dire que l'accord qui a été scellé, un accord entre puissances et un accord stratégique mais immédiat, donc a dû être dans l'esprit, en gros, de ce qui est la nouvelle doctrine nucléaire russe que Poutine a exprimée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. La nouvelle doctrine nucléaire russe est très très simple. Vous êtes un État qui attaque la Russie, je me défends. Si vous êtes une puissance nucléaire, je me défends avec le nucléaire. Mais, là c'était vrai depuis les débuts de cette doctrine russe, de la défense nucléaire. Ce qu'a la Russie a ajouté le mois dernier, c'est dire, vous m'attaquez, vous m'attaquez, mais vous êtes soutenu par une... Vous n'êtes pas une puissance nucléaire, mais vous êtes soutenu par une puissance nucléaire. Ma riposte sera pour celui qui a la force nucléaire. Et j'utiliserai la force nucléaire contre celui qui vous a envoyé au combat. Alors, vous voyez, le clin d'œil à Zelensky est direct. Hein, si tu commences à me menacer, moi, un genre une vraie opération de course, que pas une opération d'information comme elle a été, hein, à ce moment-là, je m'en prends à celui qui t'a donné l'ordre de le faire, hein, ce qu'on appelle un proxy dans le langage militaire, à celui qui t'a donné l'argent pour le faire et à celui qui t'a donné le matériel militaire pour le faire et qui même, on en a... Quelques-uns ont été pris depuis, on trouve même des officiers de l'armée des États-Unis sur le territoire russe à Koursk. Bon, ils en ont pris quelques-uns, donc la preuve est faite et il n'y avait pas besoin qu'elle soit faite beaucoup plus, on le savait déjà. Donc le message est très simple, le message est très simple. Ça, c'est un message qui a dû arriver dans les oreilles de M. Netanyahou, qui n'est pas complètement idiot, et puis dans les oreilles de M. Biden, en disant si effectivement vous attaquez l'Iran, Vous, les États-Unis, Israël, tout ça, c'est le même camp et tout, on considérera que c'était vous qui avez l'initiative et donc on sera en capacité hein, de répondre à l'attaque d'une puissance nucléaire. Ah, alors là, effectivement, le calme se revient dans les chaumières gouvernementales, effectivement. Toute attaque contre l'Iran serait une attaque prise comme une attaque contre la Russie par la Russie. Et à ce moment-là, si on se met à dire les capacités nucléaires de la Russie, effectivement, du côté de Washington, on se met à réfléchir un peu différemment. Alors, ça, c'est certainement ce qui s'est passé. Alors, il faut ensuite faire passer le message à Bibi Netanyahou, comme on l'appelle, parce que, ouais, vous savez, il est du genre à faire la sourde oreille chaque fois qu'il le peut, mais on lui a fait passer le message en disant, non, voilà. Et donc, on ne parle plus, le discours sur la riposte à l'Iran a disparu. De la même façon que du côté de Téhéran, on ne parle plus de riposte. On considère que le message est passé. Alors ça n'a pas été dans la une des journaux télévisés. C'est passé au bon endroit, dans les bonnes oreilles. Vous avez compris où on est. Hein, on ne veut pas de ça. Aucun d'entre nous, enfin pas plus M. Biden à mon avis, quoique on puisse en penser par ailleurs, ne veut la Troisième Guerre mondiale parce qu'il ne se sent pas capable de la gagner, ne serait-ce que pour cette bonne raison très pratique. Hein, et donc la Russie non plus. Et donc on est descendu d'un cran. Ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine, ce qui est manifeste. Mais il s'est passé aussi d'autres événements. Les autres événements ont concerné le Liban. Alors, le Liban. Alors, le Liban, donc là aussi, c'était une annonce qui était antérieure à l'attaque de l'Iran sur la base militaire à côté de Tel Aviv. Et effectivement, l'armée israélienne a commencé à faire ce qu'elle avait annoncé, c'est-à-dire tenter de pénétrer dans le Liban. Alors, et tenter de pénétrer dans le Liban par la frontière sud, puisque les deux pays sont frontaliers. Alors, ce qu'on sait, le bilan qu'on peut faire maintenant, ça fait quelques jours que ça dure, ça fait depuis une bonne semaine, un peu plus, c'est que ça ne se passe pas très très facilement. Alors, dans les premiers jours, on nous a dit, dans la mesure où Nasrallah est mort, c'est une autoroute, on va faire ce qu'on voudra, on va aller jusqu'à Beyrouth, etc.
Hezbollah s'est affaibli, c'est voilà. Terminé. Voilà.
Alors on a un peu cassé Beyrouth au passage, on a même ces derniers jours bombardé au nord du Liban, hein, des villes qu'on n'avait jamais bombardées encore. Et puis en fait, ça ne marche pas si bien parce que le Hezbollah est là. Le Hezbollah est là, et pourquoi il est là? Alors, c'est assez amusant, parce qu'il s'est passé une évolution dans les chaînes de radio publiques, parce que M. Macron, à la différence de sa position sur l'Ukraine, qui est la position du va-t-en-guerre le plus énervé, sur le Liban, a commencé à devenir un peu plus prudent. Parce qu'il y a des intérêts français, c'est la francophonie, il y a toute une série de choses et tout, et il a commencé à être un peu plus prudent, au point qu'on a réinvité... J'ai noté ça, j'en revenais pas. Hier, sur France Culture, on a invité un expert que je connaissais qui s'est mis à expliquer ce que c'était le Hezbollah. C'est-à-dire qui a dit, en quelques minutes, ce que des tonnes de mensonges ont dit dans le sens inverse depuis des mois sur le Liban.
Il les a démolis.
Voilà. Et il a répondu, alors, parce que la journaliste, peut-être un peu naïve ou complice, je ne sais pas, lui dit, mais complice. Quand on dit que le village, alors elle donne les noms des villages qui sont le long de la frontière entre le Liban et Israël, elle dit, ces villages sont tenus par le Hezbollah. Alors il dit, attendez madame, ne parlez pas comme ça, ça ne veut rien dire. Les gens du Hezbollah qui sont là, c'est les gens du village. c'est les gens du village. La mairie, c'est des gens du Hezbollah ou de leur famille. Le député du coin, il est du Hezbollah au Parlement à Beyrouth. Donc ne dites pas, c'est pas tenu, c'est pas des gens qui sont terrorisés, c'est leur voisin d'un côté dont le fils est quelque part armé par le Hezbollah. Donc vous ne pouvez pas tenir ce... Il s'agit alors... C'est comme si on avait dit, en France, les résistants en 43-44, c'était des Anglais qu'on avait fait venir. Enfin, pas du tout. Les résistants dans le maquis, c'était des gens du village. Hein. Ben, c'est exactement ça, le Hezbollah. Et moi, j'étais absolument époustouflé d'entendre ça sur France Culture hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé une bombe sur France Culture. Et pourtant, ce monsieur n'a fait que dire ce que tout le monde, enfin tous les gens honnêtes, ne pouvaient que constater d'une part. Ils sont sur place, ils sont chez eux, ils se défendent parce qu'ils sont chez eux.
Là, c'est des Libanais.
Voilà.
Hein.
Et puis, ils se sentent envahis. Ben, ils sont envahis puisqu'effectivement, il y a une armée étrangère qui vient dans leur village, ils se sentent envahis. Ah. Et donc, ils ont tendance à réagir. Bon. Donc, ça a une dimension tout à fait nouvelle et une approche un peu différente des semaines précédentes. Parce que là, jusqu'à présent, on n'avait pas du tout expliqué ça. Ça fait des années qu'on diabolise le Hezbollah et on avait, dans la diabolisation, on dit « on tue le gros diable hein, ». C'est celui. Et donc, on tue le gros diable, donc c'est fini. Mais non, c'est pas vrai parce que le maquis, puisque c'est un maquis aussi, d'une certaine façon, le maquis continue parce qu'il a les raisons objectives de continuer, c'est tout. On défend un village envahi par une personne qui n'est pas du village et qui n'est plus puissance étrangère. Ça, c'est la première donnée, évolution très intéressante. Fort de quoi ? Eh bien, l'armée israélienne a de la peine, elle rentre, elle sort, elle avance un petit peu, elle recule, etc. Mais elle n'arrive pas à progresser. Il n'y a pas du tout invasion du Liban Sud par l'armée israélienne. Ils n'ont réussi à rien pour l'instant. Et ils ont perdu du matériel, des hommes, etc. Bon. Ça, c'est une première donnée militaire. Et puis, il s'est greffé sur cette question du Sud-Liban la question de la FINUL. Alors, j'explique, la FINUL, intérimaire des Nations Unies au Liban. Hein. Intérimaire. Alors intérimaire, d'une certaine façon, parce que l'intérim, ça peut durer, créé en 1978, à la suite de la première invasion du Liban par Israël. Ouais. Pourquoi je dis première invasion ? Parce qu'effectivement, depuis la création de l'État sioniste, l'appétit d'Israël pour le Liban n'a jamais été démenti. À telle enseigne, je vais vous dire pourquoi et comment. Le premier président d'Israël, qui a été avant président de l'organisation sioniste mondiale, qui était un monsieur qui s'appelait Chaim Weizmann, citoyen de Sa Majesté britannique après être né dans l'Empire russe, mais d'une famille juive, avait tenté d'agrandir le nouvel État sioniste sur le papier en intégrant la moitié du Liban dans l'État sioniste. Et il avait proposé, en 1919, à la conférence de Versailles, où on parlait des traités de paix, de la future Société des Nations et tout, un tracé de la frontière israélienne qui englobait toute la partie sud du Liban. Donc les ambitions sionistes sur cette partie-là, elles sont dès l'origine. C'est-à-dire, ils veulent ce morceau-là de territoire. Pourquoi ils le veulent ? Parce que c'est un territoire arrosé, où il y a de l'eau et où on peut cultiver. Bon, c'est très, très important.
Sur la télévision israélienne, d'ailleurs, il y a des vidéos où on voit un père de famille sioniste. Je ne vais pas dire juif, sioniste, qui disait à son petit, « Tu vois les Libans ?» Tu la vois ? Et il dit oui, le petit. Alors, le Liban, c'est un beau pays, mais tu comprends, plus tard, on va la voir. C'est à nous.
Voilà, c'est à nous. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vieux. Et il n'y a pas inventé ça, puisque la carte de Weizmann, elle est de 1919. Ouais. Hein, et c'est très clair qu'il avait englobé, alors, comme par hasard, les sources du Jourdain. Hein, et les sources de la rivière, il y a une autre rivière qui se jette encore au Liban, qui s'appelle le Litani, qui va d'est en ouest. Et on prenait la source, l'eau. L'eau, parce que, effectivement, coloniser un pays, ça veut dire prendre la terre, la cultiver et chasser celui qui l'a cultivée avant. C'est tout à fait clair. Il y a donc dans cette partie-là du Liban, sur la partie la plus à l'est, le mont Hermon, qui est le sommet de la région, qui est un puits, enfin une source d'eau pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai.
Alors par rapport aux énormes besoins d'Israël, qui a beaucoup moins d'eau, et par rapport même aux besoins de la Palestine, qui a beaucoup moins d'eau, effectivement, maîtriser l'eau et le sud du Liban, c'est un objectif qui n'a jamais été oublié. D'où les opérations successives d'invasions. Et d'où la création. Alors, il y a eu les autres invasions. Il y a eu le 80, l'Intifada, Sabra et Chatila. Enfin, tout ça, je ne rentre pas dans cette énaille. Mais il y a un appétit permanent des sionistes pour le Liban.
Et d'ailleurs, pour le Golan qui est une source d'eau importante, ils se sont...
Alors, le Golan, puisque la Bible le cite, effectivement, c'est un plateau donc, qui est à l'est du Liban sud, en gros, qui est alors un plateau en haute altitude, c'est 1200 mètres à peu près, où il pleut beaucoup, ce qui est rare dans la région, du fait de sa hauteur, où la terre est excellente, c'est une terre basaltique.
La neige aussi.
Voilà, il neige aussi. Et où on peut, et ça je l'ai retenu, ben c'est très très surprenant, la principale source de viande dans les boucheries en Israël, c'est sur le plateau du Golan.
Ouais.
C'est là, parce que là on peut faire vivre des vaches avec de l'herbe, hein,
ouais.
Ce qui n'est pas le cas dans tous les coins d'Israël, ouais. Et en particulier pas dans le cas du désert du Negev. Bon. C'est très très intéressant à se souvenir de ça. Bon, cet appétit donc pour le Golan, puisque le Golan est occupé pour les trois quarts de sa superficie par Israël depuis 1967, que le Golan est toujours reconnu au niveau du droit international comme faisant partie de la Syrie, que les choses soient claires, mais il est occupé par une puissance, par une puissance étrangère.
Comme le lac Tibériade.
Voilà. Alors revenons donc à notre Finul. Cette finule, elle est mise en place donc en 1978. Et puis, du fait que la tentation, l'appétit des sionistes pour le Liban est en permanent, eh bien, elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, les effectifs sont renouvelés. Bien entendu, ce n'est pas les mêmes soldats qui sont là depuis 1978. Mais à intervalles réguliers, le service de l'ONU, qui est chargé de ses missions de paix, envoie de nouveaux contingents. Alors, les origines varient. Pour l'instant, il y a à peu près 10 000 hommes. Il y a un gros millier d'Indonésiens. Il y a 400 Chinois. Il y a 500 Français. Il y a à peu près autant d'Italiens. Il y a des Sri Lankais et tout. Enfin, ça, c'est sur le site de l'ONU. Il n'y a pas de secret. Chaque pays qui envoie des gens sait pourquoi il les envoie. Les Chinois, par exemple, c'est le service de santé de la Finul pour l'instant. Mais ils ont fait d'autres tâches à d'autres moments et tout. La Chine aime beaucoup intervenir dans des contingents de l'ONU parce qu'en fait, il faut savoir que dans une unité de l'armée chinoise, comme c'est une armée d'un pays communiste, il y a des officiers qui commandent des opérations et il y a toujours un officier politique, un commissaire politique qui va dire « voilà, ça on le fait parce que militairement c'est utile, ça on le fait pas parce que politiquement c'est pas correct ». Ce n'est pas le cas de toutes les armées du monde, hein, loin s'en faut. Hein. Mais ça, c'est la façon des Chinois d'utiliser les missions de casque bleu. C'est une façon intelligente, c'est-à-dire ils savent très bien ce qui se passe, comment ça se passe. Etc. Alors, quelle est la mission de la Finul ? La Finul, alors, quand une mission comme ça de casque bleu est décidée par le Conseil de sécurité, toutes les missions de casque bleu n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Et par exemple, la Finul n'a pas le droit d'utiliser les armes, n'a pas le droit de tirer un coup de feu, même à la limite.
Ouais.
Elle a le droit de s'installer, de surveiller la frontière, elle a le droit de circuler librement sur tous les axes le long de la frontière, qu'on appelle la ligne bleue, mais elle ne peut pas faire plus. Ce qui n'est pas le cas, on a connu d'autres cas, par exemple la mission au Congo ou dans d'autres pays, où ils avaient un peu plus la possibilité même de se défendre s'ils étaient attaqués. Là, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et ça a failli se passer dans les jours qui viennent de s'écouler, si un soldat israélien arrive, rentre dans une mission de la Finul et tue à la mitraillette un soldat de la Finul, le soldat ne pourra pas riposter. Bon, ça ne s'est pas passé, mais on est passé tout près.
Ouais,
on est passé tout près, puisque les sionistes étant les spécialistes de la provocation, ont fait rentrer deux blindés dans la cour d'un des cantonnements de la Finul.
Ouais.
Hein? Bon. Alors ils sont rentrés, ils ont pointé les canons sur les bâtiments où il y avait les gens de la mission, ils n'ont pas tiré. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés derrière le camp de la Finul, et ils ont allumé des espèces de fumigènes qui fait que les soldats de la Finul qui étaient là se sont mis à tousser, ont vomi, étaient malades. Alors ils ont probablement été victimes d'une tentative d'empoisonnement. Bon. Ce qui s'est arrêté parce qu'il y a eu des protestations, mais enfin voilà comment ça s'est passé. Et à d'autres endroits, les soldats israéliens ont empêché les véhicules protégés, qui sont blindés mais qui ne peuvent pas tirer là aussi, de la Finul, de circuler dans la route qui est la route de protection de la frontière. Donc toute une série donc, d'escarmouches entre une armée qui est extraordinairement puissante et armée, et puis des soldats en uniforme certes, mais qui ne sont pas là pour se battre. J'insiste là-dessus parce que je dis que ce n'est pas le cas, toutes les missions de l'ONU ne sont pas considérées constitué comme ça. Là, ils ont juste le droit de noter et de bloquer la frontière. Bon, c'est
pour
bien,
faire
déjà.
Plaisir à Israël.
Voilà, voilà. Alors, cette action donc, d'Israël contre la FINUL a fait beaucoup parler, et ça, c'est intéressant de voir les suites de cette action contre la FINUL, plus exactement. Elle a fait parler parce que à l'ONU, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de diplomates qui sont là, de différents pays qui sont représentés, qui commencent à trouver qu'Israël, il va un peu fort. Je modère l'expression. Et qui se disent, mais alors, ils ont déjà tué, on en est à peu près à 200 personnes, des salariés de l'UNRWA à Gaza même et en Cisjordanie. Pour lequel, bon, il y a eu des plaintes du secrétariat général de l'ONU, mais ouais. Il n'y a pas eu de campagne de presse, on les a arrêtés, mais ils sont morts, hein, donc des enseignants, des infirmiers, des assistantes sociales, etc. Ça, ouais. Voilà. Donc des salariés de l'ONU ont déjà été passés par les armes, par l'armée israélienne, à Gaza et en Cisjordanie. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Et là, quand même, le fait que ce soit en droit, alors c'est lourd, c'est une agression, c'est-à-dire il y a une invasion d'un pays étranger par l'armée israélienne. Bon. Et quand en plus on met en cause la force de l'ONU qui était là pour éviter que cette invasion ait lieu, effectivement, il y a quand même de plus en plus d'esprits dans les diplomaties de l'ONU qui disent mais où, comment les arrêter, où, jusqu'où va-t-on aller? Et effectivement, ça a donné lieu à des réactions intéressantes sur lesquelles je vais revenir.
Je ne sais pas si que tu dois être au courant. Qu'il y a certains soldats des FINUL qui ont été blessés.
Blessés, oui, tout
à
fait.
Il y a eu des tirs sur eux.
Tout à fait, voilà. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, pour l'instant, pas de mort, mais effectivement, c'est passé tout près. Alors, il faut expliquer l'état d'esprit dans lequel arrivent les militaires israéliens dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tout leur est permis, puisque... Toujours, tout le temps, tout leur est permis dès l'instant où ils ont en face d'eux un arabe. Il faut dire les choses par leur...
Moi, je voudrais simplement dire que le sud du Liban, la frontière entre Israël et le Liban, de 120 km à peu près, c'était, si vous voulez, le point faible pour le Liban. Oui. C'est-à-dire que c'est par là que l'Israël, à chaque fois, elle rentrait à l'intérieur occupé. Mais... Une partie des Libanais, qu'on appelle Hezbollah, a compris.
Oui.
Et que c'est là que... ce n'est pas, je voudrais dire que ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui ont voulu défendre leur pays.
Voilà.
Et voilà, c'est pour cette raison que le Hezbollah, il est menacé par l'Amérique l'État sioniste.
Ouais, c'est ce sud Liban où la majorité de la population était chiite.
Et je vais dire par là qu'au Liban, c'est vrai, c'est pas tout à fait toute la population entière qui est complètement...
Non. Alors, il y a eu des moments où elle a été divisée.
Moi, je voudrais le dire parce que vraiment...
Il faut bien le dire parce qu'il faut savoir que, par exemple, au moment, je rappelle simplement l'épisode épouvantable de Sabra et Shatila, où effectivement... Les Palestiniens qui sont dans ces donc deux quartiers de Beyrouth, hein, ces deux quartiers de Beyrouth, c'est pas des camps en tant que tel, sont là, sont liquidés physiquement par d'autres Libanais, par des Libanais, qui sont tous membres des phalanges chrétiennes, donc une milice chrétienne, strictement chrétienne. Mais ils sont liquidés parce que il y a dans les immeubles qui entourent un certain Ariel Sharon qui suit la manœuvre et qui dit au Liban, qui dit à ces Libanais-là, allez-y, réglez-leur leur compte, hein, je suis là, je vous protège. Hein, c'est bien ça. Donc, ça a été un massacre, effectivement, de réfugiés palestiniens, donc dans les camps de Sabra et Shatila, sous la supervision de Ariel Sharon et de l'armée israélienne, qui cette fois-là était allée jusqu'à Beyrouth. Voilà. Les autres fois, ils ne sont pas rentrés si loin. Là, ils étaient allés jusqu'à Beyrouth.
Et puis, il y avait une armée à la frontière, d'ailleurs, libanaise, Haddad.
Ouais,
une armée libanaise qui luttait sous la bannière de l'État sioniste.
Tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, il faut rappeler, resituer tout ça. Donc, cette finule, elle ne vient pas de rien. Hein. Liban est un endroit compliqué. C'est un petit pays qui n'est pas très puissant, qui a été partagé volontairement par le colonisateur français entre plusieurs origines, plusieurs groupes religieux différents. quelquefois hostiles les uns aux autres, c'est assez compliqué. Il y a des sunnites, il y a des druzes, il y a des chiites, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens fidèles à Rome, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Enfin, il y a des orthodoxes, c'est très très compliqué. La mosaïque libanaise, elle est très très compliquée. Donc quand on veut faire du mal à un pays, on utilise ces mosaïques comme facteur de division. C'est un classique du colonialisme, c'est tout à fait le cas. Et j'en reviens donc aux réactions par rapport à cette attaque contre la Finule, qui n'était pas prévue et qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. Et ça a donné lieu à deux types de réactions. Alors la première, je m'y arrête, parce qu'il existe aujourd'hui, à l'ONU, un groupe des amis en défense de la Charte des Nations Unies. Et qui disent, la Charte, elle était là, rappelons-nous, 45, l'ONU est là pour maintenir la paix et pour favoriser la paix partout où c'est possible.
Dans le monde.
Et donc, il y a un certain nombre de pays qui se sont regroupés, il n'y a pas si longtemps, je crois c'est en 2021, en disant, nous, on va avoir comme tâche principale collective de dire qu'il faut que cette charte, elle convient, elle a convenu jusqu'à présent, elle a fait office pour l'ONU, mais on va être un outil, une parole de la défense de cette charte, parce qu'elle a été trop piétinée. Sous-entendu, et qui l'a le plus piétiné, c'est les États-Unis avec les vétos pour Israël. Je crois qu'il y a 55 vétos de la délégation des États-Unis pour supporter la position d'Israël au Conseil de sécurité. Donc 55 vétos en 75 ans, c'est pas mal. Donc c'est une vraie habitude. Et ça, donc, ce groupe a un souci et donc il s'est créé. Alors, je vous donne la composition. Ils sont aujourd'hui 18 membres. Je vous le dis parce que je considère que ce sont des pays honorables qui font un travail qui nous concerne tous, puisqu'ils disent, on est là, cet organisme a été créé pour défendre la paix, et donc nous on rappelle que c'est ça, sa mission principale et première dès l'origine. Alors il s'agit donc, je les donne dans l'ordre, Algérie, Bélarus, Bolivie, la Chine, Cuba, la République démocratique de Corée, donc la Corée du Nord, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Iran, le Laos, le Mali, le Nicaragua, la Palestine, la Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, la Syrie, le Venezuela et le Zimbabwe. Ouais. Donc c'est très varié, il y en a dans le monde entier. Et c'est très intéressant parce qu'ils disent, nous, notre boulot, c'est ça, on a été fait pour ça. Et donc, ils ont pris immédiatement une position sur les attaques contre la Finule en disant, c'est inacceptable, l'ONU doit réagir. Et l'ONU avait à réagir parce qu'il faut savoir que M. Netanyahou, j'ai oublié de mentionner ça dans les épisodes de la semaine écoulée, M. Netanyahou avait demandé à M. Guterres, en gros, de se taire et en disant de toute façon, on ne t'invitera plus jamais en Israël, tu es interdit d'Israël. Alors, il faut bien essayer de se rendre compte. Alors, Israël est membre d'une association internationale, d'une organisation internationale.
Ouais.
Le premier ministre de ce pays vient cracher sur l'ONU à la tribune pendant l'Assemblée générale. Je vous rappelle que M. Netanyahou est venu dire à l'Assemblée, donc il y a de ça une quinzaine de jours, « Je vais nettoyer ce marécage ». Donc il s'adressait à tous les membres de l'ONU qui étaient devant lui. Il s'adressait en plus au secrétaire général et à tout son personnel. Bon, alors vous avez un État qui est membre de l'ONU et qui se permet de venir cracher sur tous les autres membres de l'ONU, en gros, c'est ça, et qui dit à son secrétaire général, « Mais je ne te connais pas, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi, je t'ouvrirai pas la porte, je ne te connais pas. » Et il le qualifie de « persona non grata ».
Ouais.
Alors qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une formule héritée du latin. Personnage indésirable, non, secondaire, sur lequel on peut s'essuyer les pieds, négliger, on peut le jeter aux orties, etc. Voilà les rapports qu'un membre de l'ONU, après tout, l'Israël n'est qu'un des membres, un des 180, quasiment 200 membres de l'ONU, qui se permet de traiter l'ONU comme ça. Et les réactions ne sont pas très, très importantes. Alors c'est pour ça que j'ai cité le groupe des 18 en défense de la charte. Et on a quand même eu une deuxième prise de position, c'est le mouvement des non-alignés. Alors le mouvement des non-alignés, je le rappelle, donc créé à la suite de la conférence de Bandung, par tous les pays à la tête de laquelle il y avait l'Inde, la Chine était participante à l'origine et tout, qui voulaient sortir du face-à-face URSS, États-Unis, et qui disaient, nous on est indépendants, c'était tous d'anciens pays colonisés qui se décolonisaient, et nous on veut notre voix au chapitre dans le monde. Donc ça a donné le mouvement des non-alliés, qui vit encore, qui a moins de lustre qu'à l'époque, parce qu'il y a d'autres opérations qui sont en cours, mais ça a donné ce mouvement-là, qui là aussi s'est exprimé. On attend Alors, ce serait assez curieux de savoir. La Russie a une position très très claire, puisque de toute façon, elle est membre de ce groupe pour la défense de la Charte de l'ONU. Mais on attend des prises de position plus larges, probablement, de l'Assemblée générale, disant maintenant, on ne peut pas traiter l'ONU comme ça. Si on la traite comme ça, on n'a rien à y faire. C'est-à-dire dire, vous n'êtes pas content de cette organisation, mais la porte est ouverte, partez. Ce qui serait une menace qu'il faudrait, à mon avis, sainement proférer, parce que c'est pas possible de venir cracher sur le marécage mondial. C'est-à-dire, il y a un État qui fait 10 millions d'habitants qui crache sur 8 milliards d'autres, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas du tout.
Oui, mais ça, il faut pas oublier, c'est sous la houlette de l'Amérique.
Voilà, mais l'Amérique laisse faire.
Ah oui, c'est elle qui...
Voilà. Alors... Ça, voilà, les développements. Et puis il y a les développements juridiques, parce qu'on est toujours dans le sujet, puisqu'il se trouve que depuis quelques jours, ça a été fait à l'occasion du 7, mais peut-être pas le 7, mais le 8, la Bolivie est venue se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud contre le régime israélien et contre la politique d'apartheid. Alors c'est très très intéressant, parce que la Bolivie a repris, en gros, en disant « moi je m'appuie sur la Convention internationale contre le génocide ». Tous les faits, même depuis que l'Afrique du Sud a intenté l'action, ça n'a fait que confirmer qu'effectivement le génocide était en cours. Je rappelle que pratiquement il n'y a plus aucun bâtiment habitable dans la zone de Gaza. Tous les Gazaouis sont des réfugiés dans des tentes, dans des lieux de fortune. Et quand il reste encore un bâtiment debout, il n'en a plus pour quelques heures, il va disparaître. Il faut voir les dernières attaques militaires qu'il y a eu de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. On a observé sur le sol d'immenses trous faits par des bombes qui ont pénétré sur des dizaines de mètres de profondeur, qui montrent que c'est un état de guerre extraordinairement fort.
Et de diamètre 62
voilà,
mètres.
Voilà, c'est, donc on
a, c'est des bombes, vraiment.
On en est là. Il est certain aussi que pratiquement, il n'y a plus d'eau potable à Gaza. Il n'y a plus d'eau potable à Gaza parce que tout a été cassé. Donc il n'y a plus d'égout, plus de système d'assainissement, etc. etc. Bon, tout ça fait qu'effectivement, le génocide est bien entamé. Il est plus qu'entamé. Et c'est normal qu'il y ait des réactions. Donc la Bolivie fait bien de faire ça, et c'est tant mieux.
Il y a un autre État américain, là, dernièrement aussi.
Alors le Nicaragua vient de rompre... Alors, il n'a pas porté plainte, mais il a rompu ses relations diplomatiques.
Ouais, exactement. Voilà.
Parce que la Bolivie avait déjà rompu les relations diplomatiques avec Israël, et la Colombie l'avait suivi. On espérait qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Mais il y a eux, c'est déjà une bonne chose. Donc la Bolivie fait ça, elle se joint. Alors c'est très intéressant côté bolivien, parce que ça vient un peu rééquilibrer la situation bolivienne interne, qui n'est pas fameuse, puisqu'en fait, l'affrontement entre les deux courants du MAS, le mouvement qui est au pouvoir aujourd'hui en Bolivie, et qui a survécu à un coup d'État organisé par la droite et les États-Unis en 2019, la tension extrêmement forte entre ces deux courants peut faire craindre que aux élections présidentielles de l'année prochaine, le MAS, donc le côté populaire sur la gauche bolivienne, et toutes les composantes de cette gauche perdent le pouvoir au profit de la droite qui fait des coups d'État et qui obéit aux États-Unis.
Ouais.
Et je pense que si... Alors je fais une hypothèse, mais qui plaira peut-être pas à ceux qui suivent M. Evo Morales, mais c'est lui qui pousse la bataille jusqu'au bout. Si M. Evo Morales pousse la bataille jusque-là, et qu'il le fait parce que précisément, et je pense que c'est une réponse du gouvernement bolivien, c'est une réponse du président actuel et de son équipe Arce à la position des États-Unis qui est de dire « il faut que la Bolivie tombe puisque la Bolivie est contre les sionistes ». C'est ça. Ils ne voient pas plus loin que ça aux États-Unis. Mais vous êtes pour ou vous êtes contre les sionistes. Si vous êtes pour les sionistes, vous êtes nos amis. Si vous êtes contre, on vous fera tomber d'une façon ou d'une autre. C'est ça que je redoute. Donc je pense que la décision de la Bolivie de porter plainte, elle aussi, contre la Cour internationale de justice, est une bonne chose politiquement. Et elle devrait, je pense, faire réfléchir le camp de M. Morales. Alors, sans rentrer dans les détails de la politique intérieure, mais il faut bien voir que cette politique-là intérieure, dans la mesure où elle peut déboucher l'année prochaine sur un coup d'État, ou sur l'arrivée de la droite au pouvoir, parce que cette division de la gauche bolivienne peut profiter, c'est naturel, politiquement à la droite, ça sera le bonheur à Washington. Donc, s'il vous plaît, Boliviens, n'écoutez pas ma voix, mais ne faites surtout pas ça. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin de l'anticolonialisme. Continuez sur ce chemin-là.
Ouais.
D'autres pays, on revient toujours à ces plaintes devant la Cour internationale de justice, n'ont pas été aussi brillants. Je veux parler de l'Égypte. L'Égypte, depuis le début, a dit qu'elle allait aussi se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud. Et puis l'Égypte ne le fait pas. À l'Égypte,
ça, c'est un peu comme Erdogan, là, comme voilà, le, ouais, caméléon.
Elle va, elle vient, on ne sait pas trop où elle va atterrir. Donc voilà. C'est bon de le rappeler.
Ouais, ils sont subventionnés par, les, par l'Amérique, bien sûr. Ils sont achetés. Hein.
Voilà. Et alors, je voulais m'arrêter à propos donc, de la position d'Israël sur cette question-là, donc attaquer le Liban et tout. Il faut voir que, et ça a été repris donc, dans la plainte de la Bolivie, comme c'était dans la plainte initiale de l'Afrique du Sud. Les sionistes font appel à un morceau de la Bible. Quand ils sont coincés sur une position politique concrète, ils vont retrouver un morceau de la Bible. Alors il se trouve que dans la Bible, il y a une tribu qui est sur le territoire de la Palestine qui ne veut pas laisser rentrer les Juifs qui arrivent d'Égypte. Vous connaissez l'histoire, cette histoire-là,
ouais,
puisque
ouais,
c'est,
sûr,
ça ne correspond pas à l'histoire telle qu'elle s'est réellement
pas
passée,
tout, ouais.
Puisqu'apparemment, il n'y a pas le passage de la mer Noire, ça n'a jamais existé, etc. Ouais. Mais dans l'histoire, et donc, quand on est un fondamentaliste religieux comme Netanyahou et son entourage, on dit, ah, tout est écrit dans la Bible, dans la Genèse en particulier, qui est le premier livre de la Bible, et dans les chroniques de la Genèse. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire biblique, mais... Et donc, dans cette histoire, il y a une tribu qu'on s'appelle les Amalekites, A-M-E-L-E-K-I-T-E-S, qui sont ceux qui habitent en Palestine, alors on ne les appelle pas les Palestiniens, parce que ça ne se fait pas dans la Bible, ça n'existe pas, hein, mais qui sont là, et quand ils voient arriver les autres, les Juifs qui arrivent d'Égypte, ils ne les veulent pas, ils disent « mais attendez, on est chez nous hein. ». Bon, et donc, depuis ce discours, enfin, cette partie de la Genèse et des chroniques de la Genèse, l'Amalek, puisque l'habitant de l'Amalekie, c'est l'Amalek, l'Amalek est l'ennemi, celui qui ne veut pas vous laisser revenir. Et donc, en fait, dans l'idée donc, de ces espèces de férus, de cette histoire qui n'est pas la vraie histoire, mais de cette histoire biblique, les Palestiniens qui ne veulent pas laisser leur territoire, ce sont des Amalekites. Or, qu'est-ce qu'elle dit, la Genèse ? Alors, j'essaye de retrouver le passage, mais en gros, elle dit « N'en laissez aucun survivre, je résume. Hein. Vous avez des Amalekites à dégager, hein, tous morts. Allez, on n'en parle plus, pas de détails, pas, ne faites pas la différence. » Alors, il y a un petit verset qui dit « Que ce soit des enfants, des femmes, des vieillards, des femmes enceintes, etc. Ne faites pas de cadeaux. »
C'est ce qu'a proclamé le ministre de la Défense en Israël.
Voilà,
ouais,
exactement.
Ouais, exact.
Exactement. Hein, et donc voilà, donc ça a été repris. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud l'avait cité dans sa plainte l'année dernière, et la Bolivie le reprend dans sa plainte en disant mais voilà ce qu'est, quelle est leur motivation, voilà ce qu'ils ont dans la tête. C'est-à-dire, ce sont des meurtriers, tuer tous les autres. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Alors nous, on est le peuple élu, et eux, ce n'est pas le peuple élu. Alors, essayez, quand aujourd'hui, dans une planète où il y a 8 milliards d'habitants, où il y a un groupe qui fait. Peut-être, il y a peut-être 20 millions de. Croyants dans la religion juive, pas plus, hein,
dans la moitié.
De dire que c'est eux qui ne sont pas comme les autres, c'est un discours très très inquiétant. Hein, et qui tient alors à cette référence à des textes qui sont des textes légendaires, etc. Ben, bon. Mais on en est là, et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour que la Palestine puisse vivre tranquille, il faut que les gouvernants qui gouvernent avec ces idées-là soient mis hors d'état de nuire. Ils sont nuisibles, clairement. Hein. Bon. Alors, ça ne sera pas facile parce que toute leur fortune vient de là, toute leur puissance verbale. Hein, quand il va dire « je crache sur le marécage de l'ONU », il est porté par ces discours-là. Donc il y a une vraie rupture dans la tête de ces sionistes extrémistes hein, qui doit s'opérer. Elle s'opère parce qu'il y aura la lutte des peuples qui est en cours, qui va se continuer. Ce que je souhaite, mais ce qui va nécessairement se passer, parce qu'à l'échelle de l'histoire humaine et à l'échelle des quantités, je dis 8 milliards d'un côté, 20 millions de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, dès l'instant, alors, le problème, c'est que cette évolution mentale, qui sera une rupture très très brutale pour les sionistes farouches, sera aussi une rupture politique pour les États-Unis, qui ont gardé outil de politique étrangère comme un outil extraordinairement puissant pour mettre la division dans le monde arabe et dans le monde pétrolier. Ça, tout le monde a compris. Donc, mais eux, c'est moins grave aux États-Unis en ce sens qu'il y a plus une conversion politique. Ce n'est pas une conversion idéologique profonde. Donc c'est là-dessus qu'il faut voir ce qui va se passer. C'est pas gagné, on verra ce que donneront les élections présidentielles dans quelques semaines maintenant. C'est pas évident parce qu'on pense qu'aucun des deux candidats n'est clair là-dessus, hein, et qu'en plus, il faut savoir que dans les financeurs des campagnes électorales aux États-Unis, vous savez que ça coûte très très cher une campagne présidentielle aux États-Unis, il y a un certain nombre de personnages qui sont juifs et qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent, s'ils mettent de l'argent sur l'un ou sur l'autre, effectivement faire bouger le curseur dans un sens ou dans un autre, puisqu'on sait que de toute façon, là, c'est très très étroit. Voilà, en gros, bon, la solution.
Je voudrais te dire simplement qu'il est prévu, je ne sais pas, je ne suis pas très très enseigné, informé là-dessus, que les Américains vont envoyer plus de 1800 personnes très très, comment on appelle ça, informées. Comment fabriquer, comment les Hezbollah fabriquent ces fusées balistiques actuellement, oui, je ne sais pas si tu es au courant, et qu'ils veulent essayer d'éliminer au maximum.
Voilà, effectivement, bon, les militaires israéliens et les militaires états-unis se sont rendus compte, effectivement, de l'avance technique très, très importante. Ouais. Il y a des combattants qui sont les maquisards, que je citais tout à l'heure, mais il y a aussi le matériel dont ils disposent et qui est un matériel redoutable, puisque le Hezbollah lui-même, ça remonte donc à quelques jours maintenant, a tiré sur des établissements militaires à Israël dans la zone d'Haïfa, et donc ils ont une capacité technique militaire très très avancé, effectivement, donc la vraie inquiétude est là aussi. Ouais. Dernière réaction, je vais citer ça, ça sera bref, mais le papier est très long, je crois que je vais le mettre en circulation. Il s'est réuni donc à Genève, là où s'installe la commission des droits de l'homme de l'ONU, vous savez qu'elle a son siège à Genève, une série d'experts, alors l'ONU depuis très longtemps a des experts qu'elle appointe pour faire le point sur un dossier, et il y a une série de gens qui connaissent très bien la situation en Palestine, en Israël, ils y vont, ils viennent, etc. Et ils ont produit un papier sur lequel je m'arrête quand même, parce que voilà par quoi ils commencent. Le monde est confronté à la crise la plus profonde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Les atrocités dont le monde a été témoin pendant la Seconde Guerre mondiale ont abouti à une détermination collective à dire « plus jamais ça » et à créer les Nations Unies pour atteindre cet objectif. Cependant, un an après l'attaque du 7 octobre par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens contre Israël, le monde a assisté à une escalade brutale de la violence, entraînant des attaques génocidaires, un nettoyage ethnique et des châtiments collectifs contre les Palestiniens, ce qui risque de faire s'effondrer le système multilatéral international. Et c'est signé par toute une série de plumes qui pèsent du poids, et ce n'est pas la décision de l'ONU, c'est des experts qui connaissent bien le terrain, dont la parole ne peut pas être mise en doute. Voilà. Alors, leur papier est assez long, il fait 2 pages, mais voilà comment il commence, et effectivement, il pose le problème tel qu'il est réellement aujourd'hui. Donc, M. Guterres et les membres du Conseil de sécurité doivent nécessairement prendre en compte ce type de document. Et je regarde, oui.
Et du coup, on le trouve où, ce document, puisque tu disais
alors,
que tu voulais le faire
circuler ? Alors, il est sur le siège, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Alors, il y a une version française et une version anglaise. Voilà. Je pense que je vais le mettre en circulation. Alors, dernière chose, je crois que je n'ai pas oublié. Oui, si, je voulais dire un mot sur la Syrie, parce qu'en fait, il se trouve que, oui, les Libanais qui sont bombardés, qui habitent à Beyrouth ou dans le sud Liban ou même dans le nord maintenant, ils ont tendance à s'en aller, hein, surtout si leur maison a été détruite. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont en Syrie, puisque c'est le point d'arrivée normal. Il est arrivé déjà 400 000 Libanais en Syrie. Alors, Syrie qui a des problèmes, où il y a déjà des réfugiés, des gens déplacés et tout. Et je voulais le saluer parce que, une fois que ça s'est su, le Venezuela a envoyé des avions avec de la nourriture pour au moins que ces 400 000 Libanais ne meurent pas de faim en arrivant en Syrie, la Syrie étant elle-même dans de grandes difficultés. Donc il y a une vraie solidarité entre toute une série de pays.
Syrie a ouvert ses portes.
Voilà. Et la Syrie n'a pas fermé la porte en disant « j'ai plus la place, il y a des gens misérables chez moi ». La Syrie a ouvert sa porte et elle a dit « mais en même temps, j'ai pas beaucoup de nourriture pour tout le monde ». Et le Venezuela tout de suite a fait un avion et continue. Bon, ça c'est très positif. Voilà.
Plus de 200 000 Libanais qui sont...
400 000. On est à 390 aujourd'hui. Ouais, ça n'arrête pas. Bon. Ouais. Dernière chose, il est 59, donc on va finir par une petite chanson, alors que j'ai déjà passé à l'antenne, mais c'est une chanson de Dominique Grange, qui est une des rares chanteuses françaises militantes qui ait parlé de la Palestine dans cette chanson. Comme elle est morte il y a 15 jours ou 3 semaines, je voulais lui tirer un coup de chapeau, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chanteurs français qui ont parlé de la misère palestinienne et des violences sionistes, donc elle l'a fait. On écoute Dominique Grange parlant du mur. Voilà. Ouais. Merci. Roselyne, on se retrouve bien entendu mardi prochain à la même heure.
Alors, on va écouter la chanson.
Palestine vaincra.